Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire de notre émission, la saison 2 de la Casa del Hikma, la série pédagogique sur l'islam lancée en 2019 par Saphir News. Le mois du Ramadan sur France Maghreb 2 et une grande page d'histoire sur le regard protestant sur l'islam du 16e au 18e siècle avec le livre de l'historien Pierre-Olivier Léchaud, Luther et Mahomet aux éditions du Cerf.
Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici ?
Je ne sais pas, c'est elle qui s'énerve pour rien.
Non, c'est faux, je lui ai juste dit que t'es un ignorant.
Moussa !
D'abord, c'est pas Moussa, mais Monsieur Mensali.
J'ai juste dit une blague en disant que si son frère me voyait avec elle, j'aurais une fatwa sur ma tête. Et tout le monde a rigolé.
Justement, elle ne comprend rien, c'est insupportable chaque fois.
Et la voilà de retour après la saison 1, lancée comme je le disais en mai 2019, forte de son succès et de ses près de 2 millions de vues sur Saphir News et les réseaux sociaux. La saison 2 de la Casa del Hikma est disponible depuis le début du Ramadan, une vidéo postée tous les 3 jours et la saison 2 se prolongera jusqu'en mai après la fin du Ramadan. Avec nous, Mourad Latrèche. Bonjour Mourad.
Bonjour.
Double légitimité pour commenter avec nous en studio cette saison 2, parce que vous êtes le cofondateur de Saphir News, le quotidien en ligne du fait musulman, et vous êtes acteur de cette série. D'ailleurs, on vient de vous entendre, hein, c'était bien votre voix.
Tout à fait, vous avez bien reconnu ma voix.
Alors, Mourad Latrèche, l'esprit, on va revenir sur l'esprit de cette série pédagogique.
Alors l'esprit, effectivement, c'est d'évoquer des sujets qui font débat, mais qui sont aussi pas mal entourés de préjugés, d'idées reçues. Et nous, on essaye de traiter ces sujets-là justement pour clarifier des thématiques, des sujets, des débats. Et c'est un peu la vocation de cette série.
Déconstruire les idées reçues. Alors, que peuvent avoir de jeunes musulmans souvent sur tel ou tel aspect de l'islam ? Si je regarde la saison 1, vous parliez de la charia, la laïcité, le califat, l'égalité homme-femme, le doute, hein, intéressant le doute, le soufisme, le djihad, ça c'était en 2019. Et puis cette année, il y a beaucoup, beaucoup de thématiques un peu différentes d'ailleurs.
Alors, cette année, encore une fois, c'est assez diversifié, sauf qu'effectivement, on est en plein période de Ramadan et on a peut-être concentré certaines thématiques pendant la période du Ramadan, mais d'autres thématiques arriveront juste après le Ramadan, comme la sexualité, comme l'antiracisme, comme la convergence des luttes, par exemple. Bon, là, on a des thèmes qui sortent un peu des thématiques qu'on traite en période de Ramadan.
Alors, la première vidéo qui a été postée cette année, on vous a entendu donc dans son lancement, dans son jingle, portait sur la fatwa.
Oui, effectivement, la fatwa est un sujet comme le djihad, comme un certain nombre de sujets qui sont très souvent utilisés dans les débats. Et là, pas seulement par les musulmans, mais par l'ensemble de la société française. Et donc, il était important de revenir sur ces thèmes-là. Pardon.
Donc, l'idée, c'est une mise en scène. Hein, vous êtes mis en scène. Donc, c'est un trio. Et il y en a un qui dit, voilà, oh là là, je vais avoir une fatwa sur la tête. Alors, racontez-nous.
Oui, effectivement. En fait, justement, l'idée reçue sur le mot fatwa, c'est presque une menace de mort. Et d'ailleurs, malheureusement, on l'a vécu encore récemment. Donc, effectivement, il s'agissait de revenir sur la signification de ce mot dans un premier temps, mais aussi de comment il a pu évoluer, de comment il a pu être interprété. Et donc là, il s'agit encore une fois de déconstruire l'idée reçue que le mot fatwa veut simplement dire un appel au meurtre, par exemple.
Et pour cela, donc, vous vous appuyez sur un imam, hein, bien connu d'ailleurs, l'imam de Bordeaux, Tariq Oubrou, qu'on va écouter.
Une fatwa en Occident renvoie à l'anathème, à l'excommunication. C'est l'usage qu'ont fait les masses médias depuis la fatwa de Khomeini à l'encontre de Salman Rushdie. Depuis lors, on considère la fatwa comme une excommunication, comme un anathème, comme un appel au crime, ce qui n'a rien à voir, bien sûr, avec la définition classique de la fatwa. La fatwa, c'est une interprétation de la loi dans une réalité donnée. Ce qui est permis aujourd'hui peut être interdit demain.
Ça, c'était important de le dire.
Effectivement.
Aux jeunes musulmans.
Tout à fait, parce que, en fait, ce terme-là, il est parfois mal compris, même par les musulmans eux-mêmes. Et donc, ils participent finalement à véhiculer des idées reçues ou des préjugés sur des termes, des notions comme la fatwa. Donc, c'est pour ça qu'on a fait jouer le rôle à une musulmane qui, elle-même, ne connaît pas parfaitement la signification du mot.
Vous avez vu ? Charlie Hebdo a encore publié des caricatures du prophète.
Franchement, après tout ce qui leur est arrivé,
Ils n'ont toujours pas compris.
Mais c'est toi qui n'as rien compris. Au nom de quoi on peut justifier ce qui leur est arrivé ?
Alors là, Mourad Latrèche, un thème effectivement très sensible à celui du blasphème.
Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que la particularité de cette saison, c'est justement on a osé des sujets, effectivement, qu'on n'aurait peut-être pas pu oser à la première saison. Et donc, le blasphème ou d'autres thèmes dont on va peut-être en parler, effectivement, font partie des sujets un peu délicats, mais malheureusement, l'actualité nous rappelle qu'ils sont très, très importants à clarifier.
Absolument. Et pour les clarifier, donc, vous avez fait appel à Mohamed Bajrafi, un imam.
Effectivement, un imam, théologien, donc qui maîtrise ces sujets-là. Donc effectivement, comme Tariq Oubrou, on fait appel aussi à des personnes qui maîtrisent ce sujet-là et qui ont une certaine pédagogie pour les expliquer à l'ensemble de la société et particulièrement les musulmans.
On l'écoute.
Mais dans les pays musulmans, on ne tue pas ceux qui insultent la religion ?
On regarde le Coran. Jamais le Coran n'a dit « il faut tuer quelqu'un parce qu'il a insulté Dieu », « il faut tuer quelqu'un parce qu'il a insulté le prophète ».
Mais comment expliquer les lois anti-blasphème dans les pays musulmans, par exemple ?
Pour moi, c'est une construction impériale qui va se faire le long du développement de l'islam, qui est devenu un empire. Et j'ai envie de renvoyer dos à dos ceux qui soutiennent cette manière de voir les choses et ceux qui accuseraient l'islam d'être une religion de violence. Pour cela, eh bien, je les renvoie dos à dos à l'histoire de notre beau continent, l'Europe. Les guerres de religion, les amis, les guerres injustifiées. Pour rien du tout. On accusait les gens de blasphème pour un ceci ou pour un cela. Galilée a failli passer la vie. Chez nous aussi, on a tué des gens sur la base de ces mêmes âneries. Et tout cela maquillé dans et par la religion.
Alors bien sûr, Mourad Latrèche, vous l'avez compris, on a quand même pris des extraits, des choses très courtes. Il y a toute une progression, on peut peut-être la rappeler brièvement.
Non, mais effectivement, donc là, il s'agit d'expliquer c'est que cette notion de blasphème, même si on trouve des arguments religieux, mais en fait, c'est quelque chose qui est plutôt une approche politique de la gestion d'événements, de crises, etc. Donc, dans cette vidéo, il est expliqué le pourquoi on est arrivé à interpréter ce terme-là comme étant une injonction religieuse, mais qu'il n'en est pas, en fait. C'est juste une décision politique qui a été faite par un calife à un moment donné. Donc, voilà, et c'est des explications qui sont données, qui sont parfois historiques, mais aussi beaucoup d'interprétations.
Explications, effectivement, c'est fondamental de les donner.
Tout à fait.
Et on écoute la vidéo sur le réformisme.
Et ça? J'ai une vidéo super drôle à te montrer.
Ça fait 4 siècles qu'on lance l'islam et maintenant tu vas nous réfléchir, hein ? Tu vas nous réfléchir, hein ? On n'enseigne pas la philosophie, on enseigne la religion. Quand tu réfléchis, tu seras un laïc. C'est de la laïcité, c'est de la laïcité.
Mais non, mais c'est parce que j'ai marqué là
dans les vidéos. Chut, silence !
Mais non, mais...
Shut up !
Wallah, il a raison. Ils veulent changer notre religion avec leur histoire de réformisme.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas ça, le réformisme.
Bon, là, Mourad Latrèche, je vous ai bien amusé pour cet enregistrement.
Oui, c'est bien de faire un peu d'humour quand même pour introduire.
Parce que c'est vrai
que oui, tout à fait, parce que c'est des thèmes qui ne sont pas évidents. Donc, c'est bien un peu de légèreté pour les introduire. Mais effectivement, le réformisme est quelque chose qui est quand même assez particulier pour l'islam parce que, autant on accepte le réformisme dans pas mal de domaines, autant en religion c'est un peu plus délicat et dans l'islam c'est encore plus délicat.
Et vous avez fait appel à un spécialiste du réformisme. Il s'appelle Steven Duarte, il est professeur, c'est ça ?
Tout à fait.
Paris 13 Sorbonne. C'est un agrégé d'arabe, c'est donc un vrai spécialiste.
Oui, tout à fait. Donc c'est un spécialiste qui traite le sujet depuis un certain nombre d'années, qui maîtrise bien ce sujet et en plus qui a une certaine forme de pédagogie qui est très intéressante.
Tout à fait, on va l'entendre là justement.
Ce que moi j'entends par réforme de l'islam, c'est simplement réinterroger cette tradition, riche de au moins 14 siècles, tout simplement à travers les outils que l'on a aujourd'hui, simplement. Et, bien entendu, pour faire quoi ? Eh bien, pour répondre aux défis contemporains qui n'existaient pas au 7e siècle, par exemple.
Tu vois qu'il ne faut pas caricaturer le réformisme. J'ai croisé Nadia. Tu ne la trouves pas bizarre en ce moment ?
Je sais pourquoi, mais je ne sais pas si je peux te le dire.
Vas-y, passe ça entre nous. Lâche le morceau.
Bon, je te fais confiance. Elle voit un psy.
Non, sérieux. Nadia ?
J'avoue que moi aussi j'ai été étonnée, mais après coup j'ai mieux compris pourquoi elle a besoin de voir un psy.
Tu comprends mieux quoi ? Que la psychologie c'est une science ?
Bah, tu risques d'être surpris, mais attends, il n'y a plus qu'à aller que moi pour te répondre.
Alors Mourad, là on passe à un tout autre registre, celui de la psychologie.
Oui, effectivement, c'est un thème très intéressant. D'ailleurs, on y a consacré deux vidéos hein,
oui,
pour vous dire.
Tout à fait.
Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que déjà d'une, il fallait expliquer qu'elle est perçue comme étant une science occidentale qui n'a rien à voir avec l'islam, voire même avec, je dirais, les pays arabes, etc. Alors que finalement, on explique que c'est une science parmi d'autres et qu'effectivement, elle a même, on peut même retrouver des traces chez des savants musulmans très connus et reconnus. Donc effectivement, là, il s'agissait d'expliquer en quoi consiste la psychologie. Et puis surtout, c'est qu'il y a des problèmes qui sont liés parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui vont y aller vers des pratiques qui emmènent en tout cas à des situations assez dangereuses. Et là, par exemple, il est évoqué la fameuse ruqya, donc où les gens font appel assez facilement, où il y a des charlatans qui, justement, pour soi-disant régler leurs problèmes psychologiques, on leur a dit que vous êtes habité par un djinn, quelque chose, voilà, des forces extérieures, et on essaie de régler ça, alors que finalement, on fait qu'amplifier le problème.
On écoute cette vidéo donc sur la psychologie de la Casa del Hikma.
Dans l'islam, il y a une recommandation du prophète, paix et salut sur lui, qui est « connais-toi toi-même et tu connaîtras ton Seigneur ». Si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas se développer sur le plan spirituel de manière juste.
Eh bien, ça sera la conclusion de cette première partie, j'allais dire, de la saison 2. Merci, Mourad Latrèche, d'avoir été notre invité. Donc, la Casa del Hikma, qu'on peut retrouver sur le site de Saphir News.
Sur les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook, sur Twitter et sur tout le reste des réseaux sociaux.
Merci, Mourad, merci.
France Maghreb 2 vous présente Parlez Islam spécial Ramadan.
Parlez Islam, pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes, dans la mesure du possible, Parlez Islam, pour mieux le vivre dans notre société.
France Maghreb 2, 300 000 auditeurs est présente dans une vingtaine de villes en France. Cette radio généraliste, pendant le Ramadan, offre à ses auditeurs des programmes spécifiques, comme nous l'explique son cofondateur et directeur Tarek Mami.
Oui, France Maghreb 2 est une radio généraliste, nationale, laïque, de langue française. Mais pendant le Ramadan, comme la majorité de ses auditeurs sont plutôt de confession ou de culture musulmane, parce qu'il y a la différence, on est obligé de répondre aux besoins de nos auditeurs qui, eux, ont besoin de mieux connaître la religion pendant au moins ce mois. Et donc c'est pour ça que nous avons, pendant toute l'année, une émission qui s'appelle Parler Islam de 2 heures une fois par semaine le vendredi soir, et que pendant le Ramadan, on double en durée cette émission, puisqu'en nous faisant une le matin de 2 heures, de 4 heures à 6 heures, Parler Islam matin, et une le soir de 18h à 19h, Parler Islam soir. Et c'est celle du soir qui est la plus intéressante pour moi, parce que nous y avons mis 7 imams, professeurs, théologiens, universitaires, qui répondent aux questions des auditeurs tous les jours, avec une entrée d'une dizaine de minutes sur la thématique du jour, choisie librement par l'intervenant, théologien ou professeur. Et après, ce sont des questions de réponse pour faciliter la vie aux pratiquants.
C'est des questions pratiques.
Oui. Alors, les questions sont plus que pratiques parce que vous avez une grosse partie des questions qui, par exemple, je vais aller voir le dentiste. Aujourd'hui, avec la Covid, est-ce que je peux me faire vacciner ou pas? Et est-ce que ces deux actes vont annuler mon jeûne ou pas? L'autre, ce sont beaucoup de femmes qui vont s'interroger quelles sont les obligations de la femme pendant cette période. Et puis, l'autre question qui vient, est-ce que le fait juste de jeûner sans faire la prière va être accepté ou pas? Donc, en fait, ce sont des questions concrètes que ceux qui n'ont pas de savoir religieux voudraient connaître pour être en harmonie avec eux-mêmes, parce que pendant ce mois de Ramadan, ils ont envie d'être en harmonie avec l'idée qu'ils se font de l'islam, qui n'est pas toujours l'islam, hein, mais c'est l'idée que chacun de nous se fait de l'islam, et ils viennent un petit peu chercher le confort. C'est comme si l'imam devient une espèce de conseiller en psychologie aussi, parce que les gens doivent se sentir bien pour faire ce jeûne, parce que beaucoup finissent par comprendre que jeûner, ce n'est pas s'abstenir de manger, de boire, de fumer, mais qu'il y a tout un environnement culturel autour.
Alors, quel est le profil des imams que vous invitez? Est-ce que ce sont des imams, j'allais dire, classiques ou bien des imams progressistes?
Alors, je ne saurais pas faire la différence entre classiques ou progressistes, puisque la majorité d'entre eux sont des imams qui prêchent. Mais la première condition pour être ce France Maghreb 2, c'est de maîtriser la langue française, la culture française, l'histoire de la France, pour ne pas donner des réponses, j'allais dire, selon un canevas ancien appris ailleurs, en Arabie, en Algérie, en Tunisie. Donc ce sont des imams français. Et ce sont des fois des imams qui sont théologiens, mais pas imams, c'est-à-dire qui ne se rendent pas dans le mosquée. Et samedi, nous avons par exemple un médecin imam, et lui, effectivement, il est médecin à l'hôpital Tenon. Et il est aussi imam dans une mosquée. Et lui, il va répondre aux questions. Est-ce qu'un diabétique peut faire le ramadan, par exemple? Donc, c'est très concret. Et le dimanche, nous avons une femme. C'est une première dans les radios en général, qui va répondre à tous les auditeurs. Mais on va remarquer qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont appeler le dimanche, parce qu'au téléphone, elles vont se sentir à l'aise de poser leurs questions à une femme. Donc, le profil, je dirais, ce sont des imams qui vivent avec leur temps. Certains pourraient bien sûr les qualifier de progressistes. Qu'est-ce qu'un progressiste? C'est celui qui adapte son discours à la situation dans laquelle il vit. Si c'est ça, progressiste, oui, ils sont tous progressistes.
Est-ce qu'il y a une différence entre l'auditoire du matin et l'auditoire du soir?
Alors, oui, très bonne question. Alors, l'auditeur du matin, en général, est quelqu'un qui est déjà dans la pratique religieuse. Donc, il va se lever à 4 heures du matin pour faire son repas du matin, pour faire sa prière du matin. Donc, il est investi dans la pratique religieuse. Donc, il va poser des questions un peu plus approfondies. Alors que l'auditeur de l'après-midi, 18h, 19h, lui, j'allais dire, il va chercher un veille de micom. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? J'aime pas l'expression, mais pour résumer pour les auditeurs de RFI, est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est pas halal? Et donc, il vient juste pour prendre cette réponse et partir. Donc, on voit que la sociologie de l'auditoire est très large et très différente. D'ailleurs, le CSA, et j'en terminerai là, qualifie notre radio de la radio qui est écoutée par les 7 à 77 ans. Ça veut dire que c'est une radio familiale puisqu'elle est généraliste et qu'elle essaie de répondre à plusieurs pans de l'actualité nationale française.
Voici les horaires de rupture du jeûne Iftar pour ce jeudi 22 avril qui correspond au 10e jour de Ramadan. Rupture du jeûne prévue à Nice à 20h25, à Marseille 20h32, à Mulhouse 20h33, à Lyon 20h39, à Metz 20h40. Enfin et pour finir pour la ville de Nantes, 21h07. Sahaf Tolkoum.
Tariq Mami, vous annoncez la rupture du jeûne ville par ville. Pourquoi ?
On le fait parce que je ne souhaite pas que l'auditeur qui m'écoute à Nantes, à Nice, à Clermont ou à Dunkerque se dise, Monsieur Mami, où la radio est une radio parisienne comme tout le monde, donc elle nous annonce l'heure de Paris et puis après, démerdez-vous pour trouver votre calendrier. Non, nous avons fait le choix technique de diffuser pendant la tranche horaire, donc de la musique douce. Le bip qui annonce ville par ville. Et donc, vous me rappelez même une anecdote d'une auditrice du Havre. Elle me dit, Monsieur Mami, quand j'entends l'annonce de Paris, je mets mes briques au four et je sais qu'au bip du Havre, les briques sont parfaites. Et donc, ça permet à chacun de se sentir propriétaire de sa radio, auditeur respecté. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'annoncer les 18 villes sur lesquelles nous diffusons aujourd'hui, ville par ville.
Merci Tariq Mami, je rappelle que vous êtes le cofondateur et le directeur de France Maghreb 2. C'est une page d'histoire peu étudiée que nous allons parcourir avec Pierre-Olivier Léchaud, théologien et professeur d'histoire moderne à l'Institut protestant de théologie de Paris, dont il a été le doyen. Spécialiste de la Réforme et de la période des Lumières, son dernier ouvrage, Luther et Mahomet, publié aux éditions du Cerf, porte sur le protestantisme occidental face à l'islam du XVIe au XVIIIe siècle. Pierre-Olivier Léchaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, Luther et Mahomet, une mise en miroir inattendue, donc entre le moine allemand qui en 1517, hein, avec ses 95 thèses contre la papauté, déclenche la réforme et ouvre la voie du protestantisme, et le prophète Mahomet, fondateur de la religion musulmane, mort à Médine en 632, alors que l'islam a déjà amorcé sa longue conquête territoriale. Il s'agit au premier abord d'un pas de côté dans l'histoire des religions monothéistes et leur face-à-face, mais au fil de ces pages savantes, eh bien, cette lecture protestante de la religion musulmane du XVIe au XVIIIe siècle s'avère non seulement passionnante, mais justifiée, car il y a en effet une lecture spécifique, on le voit, de l'islam de la part des réformateurs, qu'ils soient héritiers de Calvin ou de Luther. Pierre-Olivier Deschaux.
Oui, absolument. Cette lecture spécifique, elle est liée en fait à un contexte qui est celui du XVIe siècle. C'est une époque où l'Europe occidentale est menacée par l'Empire ottoman, l'Empire turc, qui progresse, hein, qui va jusqu'aux portes de Vienne.
En 1529.
En 1529, la capitale des Habsbourg est menacée. Et donc, au fond, il y a une concomitance entre l'émergence de la réforme et cette progression musulmane. Et donc, très vite, les controversistes catholiques qui s'attaquent aux protestants, aux réformateurs, vont dire c'est pas un hasard. Et par conséquent, eh bien, les protestants sont sommés de répondre et ils vont s'intéresser très vite à cette réalité qui est l'islam.
Alors, Pierre-Olivier Deschaux, vous évoquiez il y a quelques instants, effectivement, la peur du Turc, hein, la peur des armées ottomanes. Mais il faut également préciser que l'Europe chrétienne, elle est fragilisée dans ses fondements.
Oui, elle a été traversée par toute une série de crises, des crises sanitaires, des crises sociales, des crises politiques, et l'institution qui a toujours fait tenir l'Europe, à savoir l'Église, hein, l'Église chrétienne d'Occident,
eh bien, ce
qui est le pilier, qui est uniformisateur, etc., eh bien, cette institution-là, elle est en crise au début du XVIe siècle, d'où la réforme. Et donc, la menace de l'extérieur du christianisme, l'islam conquérant des Turcs, eh bien, vient au fond faire écho à une crise intérieure qui va déboucher sur l'explosion de cette unité chrétienne qui jusque-là tenait bon an mal an.
Alors pour avoir une carte plus précise, je dirais, de l'Europe à ce moment-là, du côté de l'Espagne, 1492, c'est la chute de Grenade, donc c'est le début de la Reconquista quand même par les rois chrétiens. Mais oui, c'est une Reconquista qui va prendre effectivement des décennies et des décennies.
Oui, elle a pris beaucoup de temps, hein, ça fait plusieurs siècles qu'elle est en route. Elle est effectivement réalisée à la fin du 15e siècle, mais même l'Espagne n'est pas sans difficulté, parce que les rois espagnols sont face à des crypto-musulmans qui sont ce qu'on appelle les conversos, ils sont convertis officiellement au catholicisme, et on sait qu'ils pratiquent encore pour beaucoup d'entre eux. Et donc, à l'époque, dire « je suis espagnol », c'est toujours faire peser sur soi une suspicion de crypto-catholicisme, voire aussi de crypto-judaïsme. Donc, il n'y a aucun pays, si vous voulez, qui est vraiment, peut-être dans le nord de l'Europe, mais sinon, aucun pays de l'Europe qui est spécialement épargnée par cette réalité, cette double crise extérieure et intérieure.
Alors Luther, donc en 1517, déclare en quelque sorte la guerre à la papauté. Comment va-t-il réagir face à l'islam, puisqu'en réalité, comme vous le disiez, ceux qui vont s'en prendre à Luther, eh bien, utilisent en quelque sorte l'islam.
Oui, alors la lecture de Luther, elle est finalement à la fois très neuve et très conservatrice. Il y a des éléments chez lui qui viennent du Moyen-Âge, en particulier sa lecture apocalyptique, c'est-à-dire que lui, il voit dans la progression des Turcs un signe de la fin des temps. C'est les Turcs, pour lui, le bras vengeur de Dieu, qui punit la chrétienté.
Qui
est corrompu et donc qui mérite un châtiment exemplaire pour la redresser et la préparer à la fin des temps. Et en même temps, il y a une autre tradition médiévale qui est présente chez lui, c'est celle qui fait qu'il va s'intéresser aux textes de l'islam, c'est-à-dire au Coran. Donc il y a une dimension érudite pour l'époque qui vient aussi du Moyen-Âge. Et il associe ces deux réalités-là, ce qui fait une position assez originale, d'autant que pour lui, il n'y a pas de problème à lire le texte fondateur de l'islam, à savoir le Coran.
Le Coran qui est déjà traduit en latin depuis quand ?
XIe siècle, il a été traduit par Robert de Ketton à la demande de l'abbé de Cluny. Ça existe, mais ça existe en manuscrit. Il n'y a pas encore d'édition, d'impression. Ça va être un des enjeux, justement, de l'époque de Luther.
C'est-à-dire qu'on a extrêmement peu d'exemplaires.
Il y en a pas mal, quand même, pour un manuscrit, mais enfin, c'est pas un imprimé. Donc, le faire passer à l'imprimé, c'est faire passer, disons, pas dans le domaine public, mais en tout cas le mettre à la disposition des érudits, de ceux qui savent lire. Ce serait comme aujourd'hui passer du livre à Internet, en quelque sorte.
Alors, est-ce que pour Luther, il s'agit d'une hérésie chrétienne? Parce que c'est une des thèses à l'époque. On dit l'islam, c'est une hérésie chrétienne.
Oui, tout à fait. C'est une hérésie qui remonte à Jean Damascène, hein, 8e siècle, fin du 7e, début du 8e siècle, donc très proche des origines de l'islam. Et ce père de l'Église, effectivement, consacre un traité aux grandes hérésies de son temps. Et parmi ces hérésies, eh bien, il mentionne l'islam. Hein, c'est la dernière qu'il mentionne. Donc, l'idée que l'islam est une hérésie chrétienne, elle est présente à cette époque-là. Luther en a une vision assez peu originale. Hein. Pour lui, c'est un mélange de diverses hérésies, mais ça, on le trouve assez facilement à l'époque. Mais il faut bien avoir ça en tête, effectivement, parce que c'est un autre élément qui relie au protestantisme, parce que l'islam, jusque-là, c'était la seule hérésie qui avait réussi, puisqu'elle s'était maintenue. D'habitude, on les extermine et c'est terminé, si vous voulez.
Sur les hérésies, en général.
Voilà, oui, exactement. Or, celle-là, elle a réussi. Et là, tout à coup, on en a une deuxième, c'est le protestantisme, qui est une hérésie qui réussit aux yeux des catholiques, puisqu'elle se maintient, elle ne disparaît pas. Donc là, on a une preuve supplémentaire du fait que le protestantisme, c'est la cinquième colonne de l'islam en Europe. Donc Genève, Wittenberg, même combat que Istanbul, en définitive.
Alors, Luther estimera que la résistance à opposer donc, aux armées turques, ou en tous les cas à opposer à l'islam, eh bien, ça n'est pas la lutte armée, mais c'est la résistance spirituelle.
Oui, alors ce que dit Luther, c'est que au fond, il n'y a pas de guerre religieuse. C'est-à-dire on ne peut pas demander aux Européens de se battre contre les Turcs au nom du christianisme. En revanche, on doit les encourager à se battre en tant que citoyens, pour des raisons politiques, puisque le sultan prétend s'approprier des terres qui ne sont pas les siennes, donc ça c'est tout à fait légitime. Mais la seule guerre religieuse possible pour Luther, c'est la guerre spirituelle. C'est celle de la réforme intérieure, bien sûr, mais c'est celle aussi de la prière et du chant. Et il y a tout un travail de Luther pour mettre au point, disons, des chants, des textes, des prières qui pourront être utilisés par ceux, par exemple, qui seraient faits prisonniers par les Turcs. Parce que c'est sa grande angoisse, c'est que cette religion qui finalement peut ressembler quand même au christianisme sous bien des aspects, elles finissent par séduire les gens, puis que les gens finissent par se dire « bon, au fond, c'est bien la même chose » et se convertissent. Et ça, c'est sa grande angoisse, qui est en plus amplifiée par des récits de gens qui ont vécu, qui se sont convertis, qui sont revenus et qui donc mettent en garde contre cette tentation-là.
Alors, quels sont ceux qui, au siècle de Luther, vont, j'allais dire, prendre fait et cause pour l'islam? Parce qu'il y en a, en tous les cas, qui auront un regard bienveillant, beaucoup plus bienveillant que celui de Luther.
Alors, il n'y a pas vraiment de regard, disons, bienveillant.
Ça sera plus tard.
Oui, l'islamophilie, pour le dire comme ça, c'est plutôt les Lumières. Hein. Mais au XVIe siècle, il y a quand même un personnage qui se démarque des autres, c'est Michel Servet, qui est un protestant d'origine espagnole, ce qui n'est pas sans
qui
lien,
beaucoup de choses,
bien sûr,
oui.
Absolument, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de la situation espagnole, et qui est aussi, c'est sa spécificité, anti-trinitaire.
Anti-trinitaire, alors pour notre auditoire, ça veut dire
Il se dit chrétien, mais il nie le dogme de la Trinité qui a été imposé par les conciles.
Dieu le Père,
le Fils et le Saint-Esprit.
Voilà. Évidemment, les musulmans, c'est un des grands reproches, si je puis dire, théologiques, hein,
on a pu montrer que sa théologie, finalement, du Christ, sa christologie, comme on dit en langage technique, elle est assez proche, finalement, de ce qu'on trouve dans le Coran, où il y a toute une pensée aussi sur Jésus. Ce qui est, à mon avis, très important au sujet de Servet, c'est que c'est pas le premier à dire il faut avoir un regard sympathique, de mission non violente, mais en prêchant l'évangile. Ça, on le trouve déjà au Moyen-Âge. Mais ce qui est frappant chez lui, c'est le fait qu'il dise « nous avons des choses à apprendre de l'islam », en particulier à propos de la Trinité. Et son propos, pour le dire en deux mots, c'est le christianisme avait dégénéré avec tous ses dogmes trinitaires, etc. C'est donc un Mahomet réformateur qu'il décrit, qui s'est opposé à ces dogmes et qui a voulu réformer le christianisme, voyez, réforme. Et donc, par conséquent, comme on est à une époque de réforme, il faudrait peut-être que la réforme de Luther s'inspire de la réforme de Mahomet sur ces questions.
Oui, c'est ça. En fait, il y a une forme, j'allais dire, peut-être si le mot est un peu fort, d'instrumentalisation, en quelque sorte, pour défendre ses propres thèses.
Oui, mais avec cette idée, quand même, que les musulmans, ils ont eu raison. de quitter ce christianisme corrompu.
Pour Michel Servet.
Pour Michel Servet. Alors, bien sûr, ils ont tort pour un certain nombre de choses, parce qu'il judaïse. Il est assez critique, par contre, vis-à-vis du judaïsme. Donc ça, il n'est pas totalement ouvert, si vous voulez. Mais c'est le premier qui dit, nous, chrétiens, nous avons peut-être des choses à apprendre des musulmans.
Et malheureusement, Michel Servet, on connaît sa fin terrible à Genève. Il sera...
Il a été brûlé.
Il a été brûlé vif.
Voilà, et il a été jugé avant cela. Et le procès est intéressant parce que c'est un des objets sur lequel on interroge. Pourquoi tant de sympathie pour les Turcs? Pourquoi vanter le Coran? Est-ce que tu n'es pas un Turc? Là, de nouveau, la suspicion à l'égard de l'Espagnol qui est peut-être un crypto-musulman, etc. Il doit se défendre sur ses origines. Donc là, on voit bien que c'est un aspect qui travaille à ce moment-là aussi du côté des protestants orthodoxes, disons-le comme ça.
Oui, alors c'est ça. Ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, on a rapidement évoqué les conversos. C'est-à-dire, en fait, ces musulmans qui s'étaient convertis, entre guillemets, très entre guillemets, au christianisme. Michel Servet est tout à fait sensible, justement, à cette question de la Trinité, car il sait très bien que c'est la Trinité qui coince, j'allais dire,
dans l'islam. Il ne le dit jamais tel quel, du moins à ma connaissance, mais on peut effectivement faire l'hypothèse que sa préoccupation, c'est le fait qu'il y a des gens qui, quoique officiellement convertis, restent musulmans de cœur parce qu'ils résistent à ce dogme de la Trinité.
De la Trinité. Bon, alors, pas Michel Servet sans Calvin, bien sûr, malheureusement.
Et inversement.
Et inversement. Calvin, donc, l'organisateur de la réforme, lui, alors, bon, la question théologique semble pas tellement l'intéresser, cette interrogation théologique par rapport à l'islam, non?
Oui, c'est assez étonnant d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il est très préoccupé de l'aspect conquérant de l'islam, donc la progression des Turcs.
Territorial, c'est ça. Parce qu'il faut dire que il est contemporain de Soliman le Magnifique.
Ah, très exactement. Oui, ils ont c'est à peu près la même période, le même âge, etc. Et donc, ce qui marque quand on regarde la correspondance de Calvin, c'est que ça fourmille de références à la situation géostratégique, disons. Et on voit bien que c'est un penseur qui tient compte de la situation politique, militaire, etc. Mais quand on regarde ses œuvres théologiques, il n'y a pas du tout le poids qu'on retrouve chez Luther. Et un autre élément qui est très intéressant, c'est que Luther va militer pour qu'on édite le Coran à Bâle en 1543, première édition du Coran par des protestants. Et Calvin, lui, va être sollicité pour soutenir cette publication. Et puis, il ne bouge pas.
Ça ne l'intéresse pas.
Ça ne l'intéresse pas vraiment. Ou alors, pour illustrer une idée théologique, un dogme, voilà, la prédestination, par exemple, il l'approuve en faisant référence à l'islam, mais sans avoir même vraisemblablement lu le Coran, alors que Luther le travaille réellement.
Alors, Pierre-Olivier Leschaud, on va passer au XVIIe siècle, qui est un siècle tout à fait différent, effectivement. On ne regarde plus du tout l'islam de la même façon. Alors, est-ce que c'est parce que les conquêtes turques régressent?
Oui, alors il faut pas imaginer qu'il y a un basculement immédiat.
Oui.
C'est plutôt une époque de transition, mais c'est une époque où il se joue des choses absolument fondamentales. Effectivement, il y a un stop dans la progression des Turcs en Europe, encore que ils assiègent encore Vienne une nouvelle fois à la fin du XVIIe.
Mais ça s'essouffle un peu.
D'autre part, il y a du côté des protestants une situation spécifique qui fait qu'ils vont s'ouvrir un peu aux pays musulmans. C'est que eux étant protestants, non pas l'interdiction qu'a posée la papauté de faire du commerce avec les pays musulmans, que seule en gros la France transgresse avec les échelles du Levant, mais ça c'est un autre sujet, mais autrement, ceux qui vont commencer à nouer des alliances avec le sultan du Maroc, avec le sultan ottoman, qui vont ouvrir des comptoirs au Maghreb ou Orient, là c'est le négoce, ce sont les Anglais et les Hollandais, donc deux puissances protestantes. Et c'est pas pour rien que c'est dans ces pays que vous retrouvez les premières chaires d'Arabes du monde protestant. C'est-à-dire qu'il y a un lien qu'il faut pas nier entre la dimension commerciale, une politique coloniale qui commence un petit peu et le développement de l'érudition arabisante.
C'est ça, pour vous, c'est le siècle de l'érudition
absolument.
Arabisante.
Hein. Absolument, et donc aussi le siècle où s'amorce un décentrement à mains égards, parce que...
Décentrement de, vous voulez dire, du christianisme?
Du christianisme par rapport à lui-même, c'est-à-dire que les protestants, par exemple, vont développer l'idée, qui leur est assez spécifique, qu'il y a cette proximité qu'on connaît entre l'arabe et l'hébreu biblique, et que quand l'hébreu biblique n'est pas clair, on peut aller regarder ce qui se passe en arabe pour éclairer des passages de l'Ancien Testament.
Il y a des ponts, vous voulez dire?
Il y a des ponts, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus claires dans d'autres langues sémitiques. Alors à l'époque, le terme sémitique n'existe pas en linguistique, mais on peut aller chercher des termes, des racines, pas seulement en arabe, d'ailleurs aussi en syriaque, etc., pour éclairer des passages de l'Ancien Testament. Par exemple, le Léviathan, cette fameuse créature qu'on trouve dans l'Ancien Testament, jusque-là on disait, oh, c'est une baleine. Mmh. Eh bien, il y a des auteurs à cette époque-là qui disent non, parce qu'en arabe, il y a un mot, laouia, qui veut dire serpenter, donc une baleine, ça serpente pas. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Oh ben, un crocodile. Et donc, ce genre de choses contribue au fond à transformer le regard sur le texte biblique, parce que c'est plus le texte biblique qu'on lit pour nous, chrétiens, dans notre tradition occidentale, mais on est obligé de recourir à des textes qui viennent d'Orient et donc d'un autre horizon culturel pour les lire. Donc, c'est un moment où il se passe beaucoup de choses qui conduiront ensuite aux Lumières.
Vous appelez cela une révolution galiléenne?
Oui, alors l'expression, elle vient de Gusdorf, hein, c'est-à-dire, c'est pour lui, c'est le XVIIe, c'est l'époque où, au fond, l'érudition, la science expérimentale l'emporte sur la métaphysique, sur le raisonnement pur, ce qui est assez paradoxal quand
là,
on pense
les lumières qui se préparent,
à Descartes. Hein. Mais c'est les lumières qui se préparent. Et donc, on voit ça aussi en théologie protestante, c'est-à-dire que cette accumulation de textes qu'on va lire de plus en plus, on édite beaucoup de textes en arabe avec traduction, etc. Il faut savoir que cette recherche érudite, elle culmine à la fin du XVIIe avec la première édition critique du Coran en arabe et en latin, qu'elle fait d'un catholique, mais ça participe quand même du mouvement. Eh bien, toute cette érudition, elle va finir par poser tellement de questions que ben, les vieilles frontières vont finir par craquer, au fond. Et on va devoir redéfinir la réalité du rapport au religieux, au christianisme, au lien à l'islam, etc.
Et Pierre-Olivier Leschaud, vous insistez aussi pas mal dans votre livre, dans cette partie consacrée au XVIIe siècle, sur le rapport entre le protestantisme et l'islam, sur les liens personnels.
Oui, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que à l'époque, quand vous êtes un érudit arabisant, bon, vous pouvez bien évidemment apprendre l'arabe avec des maîtres européens qui connaissent un peu, mais très vite, comme il n'y a pas vraiment de grande grammaire établie, etc., vous êtes un peu obligé d'aller faire comme faisaient d'ailleurs les hébraïsants au XVIe siècle, d'aller voir un rabbin, ben, de voir quelqu'un qui parle arabe. Alors il y a deux options, soit c'est un chrétien maronite, c'est ce qui se passe beaucoup en France, hein, les professeurs d'arabe au Collège Royal de Paris sont des maronites, donc des catholiques, hein, à l'époque, puisqu'ils sont déjà rattachés à Rome. Mais les protestants, eux, ben, ils vont pas forcément frayer avec des catholiques.
Donc ils vont où?
Via les réseaux commerciaux, ils contactent, ils entrent en relation, pas tellement qu'ils contactent, mais ils entrent en relation avec des musulmans. Et ce sont des musulmans qui leur apprennent l'arabe et sur le texte arabe par excellence qui est le Coran. Et ça, c'est une spécificité protestante, c'est-à-dire que les protestants apprennent l'arabe en lisant le Coran, beaucoup plus que les catholiques qui, eux, lisent des textes chrétiens écrits en arabe. Donc, dans le protestantisme, au XVIe siècle, on apprend l'arabe majoritairement avec le texte du Coran.
Toujours pour ces rencontres, vous évoquez, ça c'est très intéressant, les galériens.
Oui.
Les galériens, et notamment l'expérience de Jean, alors je ne sais pas si je prononce bien, Marteil.
Jean Marteil, oui.
Oui.
Oui, tout à fait, qui est donc...
Alors, c'est galérien d'abord.
Oui.
Vous dites qu'un galérien sur cinq est musulman, et en revanche, il y a beaucoup, beaucoup de réformés.
Oui, alors les galériens, bien sûr, c'est une population qui est très diverse, mais... Parmi eux, bien évidemment, on trouve des protestants et des turcs. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces galères, les protestants et les musulmans sont traités en gros de la même façon.
C'est-à-dire pas bien.
C'est-à-dire pas bien. Jusque dans la tombe, on considère qu'au fond, le protestant, bon, il se dit chrétien, mais enfin, il est aussi infidèle que le musulman. Et donc, on enterre les Turcs et les protestants ensemble. Il y a une seule différence, c'est que les Turcs, eux, lorsque les galères sont au port, à Marseille, Toulon, etc., les Turcs, eux, peuvent descendre, parce qu'on va les repérer. S'ils essayent de s'éloigner un peu trop, ils parlent pas la langue, ils sont pas habillés de la même façon, etc. Tandis que les protestants qui sont français, ben, eux, ils peuvent s'en aller, ils peuvent s'enfuir. Donc, eux, ils n'ont pas le droit de descendre à terre. Et par conséquent, ces protestants, on sait qu'ils vont demander aux Turcs, ou que les Turcs même vont leur proposer, de passer des messages, des lettres, un peu d'argent, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Et Marteil, ben, c'est quelqu'un qui raconte ça beaucoup plus tard, près de 50 ans après sa captivité, et qui explique qu'il n'aurait sans doute pas survécu sans l'aide de ces Turcs avec lesquels il se lie d'amitié. Et qui l'impressionne d'autant plus qu'il l'aide de manière parfaitement gratuite au nom de leur religion. Et on a donc ce passage absolument magnifique où Marteil dit « Mais au fond, ces gens, on les traite de barbares, mais moi, je les ai perçus comme des frères et c'est ceux qui les traitent de barbares qui sont les vrais barbares. » Et donc là aussi, ça participe, cette dimension de la rencontre personnelle, je pense, de ce décentrement. Il ne faudrait pas avoir dans ce décentrement une réalité purement érudite, même si ça joue un rôle très important, mais c'est aussi le fait de rencontres qui existaient déjà avant, mais qui changent en raison de cette diversité religieuse qui s'installe au sein de l'Europe, si vous voulez.
Oui, de toute façon, c'est toujours le cas. Hein. C'est la rencontre interreligieuse, c'est d'abord, on insiste toujours, et notamment islamo-chrétienne, c'est toujours le fait de la rencontre plutôt que les discussions théologiques.
Et oui, c'est premier, absolument, absolument.
Écoutez Religion du Monde, notre invité est Pierre-Olivier Léchaud pour son livre Luther et Mahomet, le protestantisme d'Europe occidentale devant l'islam du 16e au 18e siècle. Précisément, on arrive, Pierre-Olivier Léchaud, au 18e siècle, siècle des Lumières. Alors, quelle va être, j'allais dire, la vision protestante de l'islam au XVIIIe siècle?
Oh, elle reste multiple. Elle a toujours été multiple.
Elle le sera plus encore?
Oui, et puis elle se diversifie. C'est-à-dire qu'on voit émerger ce qu'on pourrait appeler l'objectivité d'abord. C'est-à-dire que les érudits du XVIIe dont on a parlé, ils restent marqués par un contexte chrétien, un moule de lecture chrétienne pour ainsi dire. Mais au XVIIIe siècle, on assiste à un réel souci pour l'objectivité. C'est-à-dire qu'on ne va plus lester la lecture de l'islam d'un point de vue théologique positif ou négatif. On le voit très bien dès les années 1710. Là encore, pour des raisons intéressées et instrumentales, parce qu'on est justement vraiment engagé cette fois dans la colonisation de certaines régions, pensant aux Hollandais en Indonésie, hein, territoire musulman, les comptoirs, etc. Et donc, il faut connaître ces gens avec qui on interagit de manière objective, pour des raisons évidentes. Hein, et c'est pas du tout de la sympathie. Mais en même temps, cette connaissance objective, elle va conduire à ce que certains penseurs, philosophes, par exemple Pierre Bayle, qui est un penseur protestant, à se poser des questions et finalement à dire « Mais quand on regarde l'histoire de l'islam, on s'aperçoit qu'ils sont parfois, les musulmans, les ottomans par exemple, beaucoup plus tolérants avec les autres religions que nous chrétiens, nous ne sommes envers nos propres minorités. »
Ça, c'est le protestant qui
réagit. Le protestant français persécuté qui réagit en disant cela. Et il a une phrase absolument phénoménale, c'est que il dit « L'intolérance musulmane aura fait en 5 siècles moins de victimes que l'intolérance catholique durant la nuit de la Saint-Barthélemy. »
Oui, ça c'est le protestant qui parle.
Bien sûr.
Il fait l'impasse sur les conversions forcées.
Bien sûr, hein, bien sûr, et aussi sur le fait, bon,
pour le coup,
puis que ce que les protestants peuvent faire subir aux catholiques là où ils sont majoritaires en Angleterre, par exemple, ça c'est indéniable. Il le fera plus tard. Hein. Il est de ce point de vue-là, il est moins confessionnalisé que ce que je disais là peut le laisser penser, parce que lui, il est au fond critique vis-à-vis de toute dimension coercitive en matière de religion. Hein. Et ça, c'est ça qui est central chez lui. C'est un des pères de la liberté de conscience. Il ne faut jamais l'oublier. Mais ça part de son expérience
personnelle.
Ouais. Et justement, dans ce combat pour la liberté de conscience, l'islam apparaît comme un exemple ou un contre-exemple du christianisme. Avec le christianisme, dit Bell, vous avez une religion où le fondateur prêche la paix et l'amour du prochain. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la guerre, on a fait les croisades, on s'entretue nous-mêmes. De l'autre côté, vous avez une religion, l'islam, dit Pierre Bell, dont le fondateur a dit « Vous pouvez tuer les infidèles, il n'y a pas de problème. » Et qui a fait quoi ? Eh bien, qui a fini par instaurer la tolérance dans l'Empire ottoman. Qu'est-ce qui est préférable ? Une religion qui trahit ses racines pour faire la guerre ou une religion qui trahit ses racines pour faire la paix ? Eh bien, les musulmans sont plus intéressants que les chrétiens de ce point de vue-là, dit Bell.
Oui, c'est ça. Ça, c'est la vision du protestant persécuté, j'allais dire. En tous les cas, une vision protestante persécutée.
Oui, oui, mais il dit ça aussi vis-à-vis de lui-même et des autres protestants en disant « Mais vous, les protestants anglais, vous faites pareil. » Donc
Il est sévère avec les protestants,
absolument, absolument. Il est très critique vis-à-vis de certains de ses collègues, par exemple pasteurs, théologiens, qui défendent la contrainte en matière religieuse, et il leur dit « D'accord, mais alors si vous tombez sous le coup ou sous l'autorité d'un souverain musulman qui, lui, est majoritaire et qui décide qu'il doit vous contraindre, il ne faudra pas vous plaindre, parce que ce qui vaut ici vaut ailleurs où on n'est pas majoritaire. »
Il voit le prophète comment ? Semble-t-il comme un faux prophète, Pierre Bell ?
Oui, alors Bell reste tributaire de cette image de Mohamed comme d'un imposteur. Hein. L'imposteur Mohamed, c'est l'image qu'on a beaucoup dans l'Occident chrétien. Mais chez Bell, cette vision, elle est déthéologisée. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est pas l'imposteur qui fabrique une hérésie et puis qui veut se faire bien voir, c'est l'usage politique de l'imposture religieuse. Et parce qu'il s'interroge, c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, la question de la tolérance, c'est quelle est la place du religieux dans le politique. C'est la question qu'en philosophie on appelle le théologico-politique. Et de ce point de vue-là, la construction d'une religion dans un but politique, ça l'intéresse parce qu'il est dans la ligne de Machiavel pour lequel la religion, eh bien, elle peut être un prétexte pour modeler une réalité politique.
C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, Pierre-Olivier Léchaud, c'est que ça peut être très contemporain aussi, cette approche et ces craintes.
Ah, absolument, hein, absolument.
Quand on lit votre livre, souvent on se dit, mais oh, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, oui, bah je dirais que c'est la dimension éthique, morale presque, j'aurais envie de dire,
politique aussi,
bien sûr, ouais. de l'histoire. C'est de nous offrir des possibles qui ont déjà existé, mais voilà, de nous inviter à ouvrir des fenêtres sur des mondes ou des réalités qu'on n'aurait pas forcément attendues à cette époque.
Alors, en conclusion, Pierre-Olivier Léchaud, donc sur la lecture protestante de l'islam, que peut-on dire ? Qu'est-ce que cette lecture aura apporté ?
Je pense que ce qui est déterminant dans toute cette histoire, c'est qu'au fond, l'islam, la lecture protestante de l'islam révèle un trouble. C'est-à-dire que l'islam, c'est à la fois l'étranger et le très proche. Et c'est dans ce jeu-là que se révèlent des questions qui aujourd'hui sont des questions que se posent aussi les spécialistes de l'islam. C'est cette grande proximité dans le Coran avec le christianisme, Jésus, Marie, toutes sortes de figures bibliques. Et au fond, eh bien, la lecture de l'histoire du regard protestant sur l'islam, elle nous invite à nous reposer aujourd'hui sur un plan historique, mais aussi plus largement sur un plan sociétal, la question de la proximité entre ces deux religions que sont le christianisme et l'islam.
Est-ce que ça interroge, selon vous aussi, les musulmans ?
Ben, c'est à souhaiter, en tout cas. Il y en a incontestablement avec qui ce dialogue se noue, et c'est quelque chose qui est d'autant plus important au vu de la situation que nous traversons aujourd'hui.
Je vous remercie, Pierre-Olivier Léchaud. Je rappelle le titre de votre livre, Luther et Mahomet, le protestantisme d'Europe occidentale devant l'islam, du XVIe siècle au XVIIIe siècle, et c'est publié aux éditions du Cerf. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
l'atelier.